le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Le micro de Fenêtre sur l'Afrique. Ce soir, avant de recevoir mes invités, notamment Emmanuel Bokovi de la CDP ABT et Agbeyome Kodjo de Obu, et pour en savoir un peu plus également sur la cérémonie de profession de foi organisée ce samedi même et par le collectif Sauvons le Togo, nous accueillons d'abord par téléphone en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kwasi. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Et bonne soirée à toutes et à tous, et bonne soirée également à toute l'Afrique, et bienvenue au programme. Et bien sûr, quand Fabi Kwasi est déjà en ligne, nous l'appelons tout de suite en direct depuis Lomé. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir à nos auditeurs.
Le collectif Sauvons le Togo a demandé encore une fois à la population de sortir massivement dans les rues pour la cérémonie de profession de foi. Et cette même cérémonie qui avait été violemment réprimée par la police togolaise samedi dernier. Alors Fabi, est-ce que ce samedi, la population est sortie nombreuse pour cette profession de foi et pour la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance du Togo, Fabi?
Oui, effectivement, c'est des milliers de Togolais qui ont répondu à cet appel-là, une semaine après la répression sauvage de la cérémonie de profession de foi à laquelle a convié le collectif Sauvons le Togo, comme vous venez à l'instant de le rappeler. Répression signée de la soldatesse de forme assimilée. Les forces démocratiques ont reporté la cérémonie sur ce samedi au pied du monument pour redonner un autre sens à la lutte libératrice de la mère patrie, comme l'ont fait les pères de l'indépendance il y a 52 ans. Milliers de Togolais ont pu avoir accès au pied du monument de l'indépendance à l'instant où je vous parle. Hymne national, prière, objectif de la cérémonie, les grands moments de la lutte pour l'indépendance, la marche républicaine, la profession de foi qui est une véritable prestation de serment où les milliers de Togolais qui ont répondu à l'appel, point levé vers le monument, ont réitéré leur engagement patriotique et citoyen de renouveler leur fidélité à la lutte. En paraphrasant le message inscrit sur ce monument, peuple togolais, par ton courage, ta foi et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. C'est donc un grand moment que les Togolais, ensemble avec les politiques qui regroupent les partis politiques des organisations des droits de l'homme et celles de la société civile, ont passé. Rappelons que c'est la seconde manifestation du collectif. La première a consisté en une journée de jeûne et prière, suivi d'une célébration œcuménique, un collectif qui s'appuie sur du symbolisme avant le début effectif de ses activités.
Oui, Fabi, merci d'être en direct avec nous depuis Lomé. Et la dissolution de l'ancien parti du pouvoir RPT et la création de nouveaux partis politiques UNIR, Union pour le Rassemblement de Fort Gnassingbé, est toujours objet de discussion au Togo. Et Fort est déjà en campagne pour son nouveau parti à Kbalimé cette semaine. Mais certains Togolais disent que le jeune président reprend au fait les vieilles méthodes de l'ancien parti RPT. Fabi, quelles seront les conséquences que cela pourrait avoir sur la vie politique au Togo? On sait également déjà que les députés de l'ancien parti RPT ont déjà formé un groupe de majorité parlementaire, Fabi.
Ouais, c'est excellent. C'est vrai, vous avez tout dit, Sylvain Amos, c'est parce que depuis la prétendue dissolution du RPT le 14 avril dernier, qui est un nouvel habillage, Fort a enlevé l'habit de Pierre pour le remettre à Paul, et donc le RPT est remplacé par l'Union pour la République Unie. Le nouveau RPT, donc, et le nouveau parti de Fort Gnassingbé, les Togolais sont plongés dans une confusion politico-juridique après cette prétendue dissolution. Mais comme président du RPT, au nom duquel il a été candidat et proclamé président de la République, la dissolution du parti ne peut ne pas avoir d'incidence sur sa mandature actuelle, ce qui fait dire à certains opposants qu'il doit même quitter la magistrature suprême. Maintenant, l'actuel gouvernement, qui est une émanation de l'accord RPT-UFC, la disparition de l'une des entités dans cet accord rend ce dernier caduque, de même que tout le gouvernement qui doit démissionner. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, vous venez à l'instant d'en parler, sont élus sur proposition de leur parti respectif, conformément au règlement intérieur de la dite Assemblée. Il devient donc une évidence que le parti n'existant plus, ce bureau devra être recomposé. En réalité, il y a de sérieux problèmes dans les organes et institutions où le RPT a des représentants, y compris le CPDC, le cadre permanent de dialogue. c'est la Commission électorale nationale indépendante, sans oublier le parti en création, Unir, qui mène des activités politiques sur le territoire, où Faure lui-même est estampillé président provisoire du parti, va pratiquement campagne avec les moyens de l'État, où ses affiches et posters sont dirigés dans le pays, où des messages publicitaires du nouveau parti sont publiés dans les médias publics et privés. Tout ceci devant un silence complice de la RAC et de l'administration municipale, en violation des textes en vigueur, notamment la charte des partis politiques qui dispose en son article 16 que le parti politique acquiert la personnalité morale à compter de la date de sa déclaration au ministère de l'Intérieur. Toutefois, il ne pourra exercer d'activité publique qu'à compter de la publication au journal officiel ou dans un organe de presse autogo. Or, Sylvain, depuis le 16 avril 2012, sans avoir obtenu et publié un récépissé, le président provisoire de Unir, Faure Gnassingbé, sa suite sont en campagne en violation des textes.
Fabi Kouassi, merci d'avoir été en direct avec nous et dans cette émission. Rubrique Le micro de Fenêtre sur l'Afrique. Encore une fois, merci. Rendez-vous samedi prochain, Fabi.
Au revoir, merci.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Notre invité de ce soir, ou du moins c'est notre premier invité de ce soir, puisque nous allons en avoir deux. Et le premier, c'est Monsieur Emmanuel Boukovi, qui est responsable de la session France de la CDPABT, Convention démocratique des peuples africains, branche togolaise. Monsieur Emmanuel Boukovi est également membre du comité exécutif national. Alors, comme c'est la toute première fois que nous allons le recevoir dans cette émission, et permettez-moi d'abord de vous introduire ou bien de vous résumer un petit peu les objectifs de ce parti. Alors, la Convention démocratique des peuples africains, branche togolaise, c'est un parti politique togolais créé depuis 1989 par le professeur Emmanuel Goukonou et qui est avec un groupe d'amis. Ce parti a pour objectif le changement démocratique, c'est-à-dire la fin du pouvoir dictatorial qui opprime le peuple togolais. Son deuxième objectif, c'est la création d'un système politique nouveau à la place du régime du feu et à des mains. Ce système nouveau sera fondé sur les libertés politiques, le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, sur la justice sociale. Et le troisième objectif de ce parti, c'est le développement pour une prospérité partagée, pour améliorer les conditions de vie de la grande masse de la population. Le quatrième objectif de ce parti CDPABT, c'est l'instauration de la démocratie et comme condition de développement. Alors, tout de suite, en ligne, depuis la France, Emmanuel Boukovi, bonsoir. Ouais, merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Alors, dans l'une de vos publications récentes, vous semblez réduit à néant la lutte de la classe politique opposante au Togo. Mais n'est-il pas vrai qu'il y a eu certaines avancées à mettre à l'actif de cette lutte et pour le changement démocratique et la liberté d'organiser, par exemple, aujourd'hui des marches de protestation qui, hier, même sous Faure Gnassingbé, n'étaient pas faciles, hein? Alors, pour vous, est-ce qu'on peut dire sans langue de bois, hein, Emmanuel Boukovi, et que les 2 ans de manifestation du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement, n'ont abouti à rien?
Je vous remercie et je n'esquiverai aucune de vos questions. Vous savez, vous dites qu'il y a des avancées au Togo, mais nous nous interrogeons sur quel genre d'avancées. Vous savez, ce pourquoi le peuple togolais est insurgé en 90 ne se réduit pas à des avancées à mettre à l'actif de la lutte, mais le changement de régime politique, c'est-à-dire l'instauration d'un régime politique démocratique à la place du régime des Yadema. Faure Gnassingbé a reçu ce vieux régime despotique en héritage en 2005 par les voies que l'on sait, que vous savez. Le changement démocratique pour nous ne se réduit pas à la liberté d'organiser des marches de protestation. Je vous parle sans langue de bois, comme vous le souhaitez. Les marches de protestation ne datent pas du règne de Faure Gnassingbé. Les partis d'opposition avaient commencé à les organiser déjà sous Yadema, les militaires et les gendarmes, les policiers balançaient des grenades lacrymogènes, mais nos camarades recommençaient et il a fallu que ceux qui ont participé, vous savez, ou se souviennent des manifestations qui ont lieu à Kodiendi, le savent. Mais qu'est-ce que ces marches de protestation ont donné par rapport à l'objectif du changement démocratique? Dans quel, je dirais même, c'est la question qui est la plus importante à se poser. On marche pour protester. On est content d'avoir marché et d'avoir protesté. Et après, que se passe-t-il? Alors, qu'ont été données en réalité ces marches? Sans langue de bois, je vais vous dire. Faure a-t-il laissé le pouvoir à Jean-Pierre Fabre, en réalité? Faure a laissé faire pendant quelques mois pour deux raisons. D'abord, il savait que le FRAC n'avait pas la force politique et organisationnelle nécessaire pour lui prendre le pouvoir. Ensuite, il savait que laisser faire à ce lendemain des élections de 2010, des marches incapables de l'obliger à quitter le pouvoir, ne pouvait que lui rendre service en le faisant passer aux yeux de l'opinion étrangère pour un chef d'État respectueux des libertés démocratiques et de l'État de droit. Il a donc laissé faire le temps qu'il faut, mais quand il en a eu assez, il a fait balancer des grenades lacrymogènes pour annoncer que la récréation est terminée comme l'a toujours fait son père. N'est-ce pas ce qui s'est passé pendant les deux ans dont vous parlez? Pourquoi Faure s'est-il réprimé si férocement les étudiants de CARA parce qu'ils ont organisé des manifestations? C'est fort de ce constat que ce que l'on peut considérer facilement comme des libertés n'est qu'une illusion de la liberté. Et ce que l'on peut considérer ou qu'on peut considérer comme depuis 2006 comme changement n'est qu'une illusion du changement. Ce que vous prenez pour des avancées ne sont en réalité que des apparences trompeuses. L'objectif démocratique ne doit pas être, l'opposition démocratique ne doit pas permettre qu'on serve à la population des illusions à la place du changement auquel il continue d'aspirer. Voilà.
Et M. Emmanuel Bokovi a beau mentir et qui vient de loin, nous dit-on souvent. Alors, vous appartenez aussi à une formation politique et qui n'a jamais participé aux élections présidentielles au Togo. La réalité sur le terrain en est tout autre. Hein. Est-ce que vous êtes en synergie avec les autres formations politiques au Togo? Et quand irez-vous sur le terrain pour mouiller votre maillot et faire mieux que les autres leaders partis politiques au Togo?
Sylvain Amos, j'appartiens effectivement à la CDP-ABT et je suis le responsable de la section de France de ce parti politique.
Et vous êtes également membre du comité exécutif national également, oui.
Exécutif national, tel que vous l'avez présenté. Donc, ce que nous avons, je vais vous dire, nous n'avons effectivement jamais participé aux élections. C'est vrai. Ce n'est pas seulement pour des raisons financières. C'est surtout par fidélité aux aspirations populaires pour le changement démocratique. Je vais vous dire. Le peuple ne s'est pas insurgé en 90 pour revendiquer les élections, mais la fin du régime des Adema, la fin d'un régime d'oppression qui est source de pauvreté et de misère. Le « ça suffit » de l'époque ne date donc pas de 2012. Elle date de 1990. Le peuple insurgé, cette année-là, pour tenter de contraindre le régime d'oppression à céder la place à un régime politique démocratique. Et Adema faisait bien faire des élections avant 1990. Il a continué à les faire jusqu'en 2005. Et son fils a pris la relève. Vous serez d'accord avec moi que de 1993 à 2005, aucun des chefs du courant, je dirais, dominant de l'opposition n'a pris le pouvoir à l'issue des élections présidentielles auxquelles ils se sont toujours précipités à chaque fois les uns contre les autres. Alors, les législatives de 1994 car l'UTD avait des députés à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, en 1996 aussi, ils ont eu des députés. Les deux partis avaient encore eu des députés en 2007. Ils étaient même majoritaires en 1994. Mais en termes de changement démocratique, qu'ont-ils pu faire dans l'hémicycle face aux répétés et au régime? C'est la question qu'on se pose. Par contre, ces élections ont laissé croire et laissé dire à chaque fois que le régime est devenu un régime démocratique parce qu'il fait des élections auxquelles l'opposition participe. En allant aux élections dans des conditions où il l'a fait jusqu'à présent, le courant majoritaire de l'opposition n'a jamais fait rien d'autre que de rendre service au régime. Il n'a jamais rien fait d'autre que d'accompagner le régime tout au long de la lutte pour la démocratie. Il a ainsi contribué au maintien et à la consolidation du régime par cet accompagnement. La CDPABC n'entend pas faire des élections pour les élections ou pour montrer qu'elle existe en allant aux urnes dans n'importe quelle condition. Elle n'entend pas accompagner le régime pour contribuer à son maintien et à sa consolidation. C'est pour cette raison-là que chaque fois nous avons refusé de participer au simulacre d'élection. Alors, vous demandez si nous sommes en synergie avec les autres formations.
Justement, quand est-ce que vous irez sur le terrain, puisque la vraie lutte est sur le terrain, Emmanuel Bokovi.
C'est vrai. Nous sommes en synergie. Si nous avons travaillé avec les autres partis d'opposition dans le FAUD, CODE en 1991, dans le CODE 1, en 1992-96, dans le CODE 2, en 1996-98, dans le CFD, en 2002-2003, nous avons à plusieurs reprises tenté de susciter des rencontres avec d'autres partis dans le but de réfléchir ensemble pour trouver ensemble des solutions possibles aux problèmes que pose le combat pour la démocratie. Nos tentatives, je vous le dis, ont été vaines. On nous a toujours fait savoir que les élections approchent et qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Et les plus récentes de ces tentatives concernent les dirigeants de l'UFC, qui sont aujourd'hui à la tête de l'ANC. La remarque est très importante. Alors, quand iriez-vous sur le terrain pour mouiller votre maillot, me dites-vous? L'expression me fait sourire, parce qu'elle me fait penser à une compétition entre équipes de foot. Vous savez, les partis du courant dominant de l'opposition ont toujours pris la lutte pour la démocratie pour un terrain de football, où les partis d'opposition doivent engager entre eux une compétition pour la conquête du pouvoir. C'est une des plus grandes erreurs de l'opposition togolaise. Plus d'une fois, nous avons relevé cette erreur et supplié nos amis du courant dominant de ne pas continuer dans ce sens. On ne partage pas la peau du loup avant de l'avoir tué. En tout cas, on a toujours plus de chances de gagner le combat pour la démocratie quand on est nombreux. Quand on est ensemble et quand on est bien organisé, ce ne sont pas là des idées nouvelles pour nous autres à la CDPABC. Alors, je suis membre de la CDPABT, un des premiers partis d'opposition créés, et qui continue toujours à travailler sur le terrain. Je travaille sur le terrain par conséquent. Si vous voulez, je mouille. Je mouille donc, moi aussi, mon maillot. Mais pas de la même manière que vous pensez. De toute façon, pas de la même manière que les partis du courant dominant de l'opposition le font. Et pas pour les mêmes buts. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. Les moyens non plus. Parce que nous ne sommes pas le même parti.
Emmanuel Bokovi, on va y revenir là-dessus. Et sûrement que vous avez des approches de solutions, puisque vous dites que vous avez pas, vous luttez aussi selon vos manières. Là, on va y revenir là-dessus. Alors, dans votre récente publication sur nos sites partenaires comme Togo City MO5 Togo, et vous faites également allusion à une alliance politique et plateforme politique sans pour autant expliquer ou définir votre critique assez intéressante. Alors, selon vous, quelle est la différence entre alliance politique et plateforme politique?
Oui, c'est simple, Sylvain Amos. C'est bien simple. Et votre question mérite d'être posée. Je vais vous donner la définition, ce que nous pensons de ce que c'est qu'une alliance et ce que c'est qu'une une alliance telle que nous l'avons toujours proposée, qui est formée de partis d'opposition qui se sont donné un but commun à atteindre sur la base d'un accord conclu pour rester ensemble afin de pouvoir atteindre ce but. Alors, la plateforme politique, c'est la base sur laquelle l'accord est conclu. C'est en général un document dans lequel sont consignés les principes et les règles ou les codes de conduite sur lesquels les partis membres de l'Alliance s'engagent ensemble les uns vis-à-vis des autres à partir du moment où ils les acceptent et qu'ils sont par conséquent tenus de les respecter. Ne pas respecter la plateforme politique en cours de route, c'est trahir l'Alliance, c'est trahir les autres membres de l'Alliance. L'Alliance n'est donc pas la plateforme politique et la plateforme politique n'est pas l'Alliance. La plateforme politique est le ciment qui lie les membres de l'Alliance entre eux. Elle permet à chaque parti ou organisation associative membre de l'Alliance de marcher droit sans faire des entourloupes aux autres. Une alliance n'est donc ni un collectif, ni une coalition. Les membres d'un collectif, comme ceux d'une coalition, ne sont pas liés entre eux par ce ciment qui constitue la plateforme politique et qui peuvent donc sortir du groupe à n'importe quel moment ou faire ce qu'ils veulent. Il faut insister sur l'idée suivante pour calmer les inquiétudes de certains responsables de nos partis d'opposition. Une alliance n'implique pas la fusion des partis membres en un parti unique ou l'alignement des partis membres derrière l'un d'entre eux, ce qui revient à un parti unique de fait. Dans une alliance, chaque parti ou organisation membre conserve son identité, sa ligne politique, son organisation, mais accepte de travailler avec les autres pour un but commun et sur la base d'une plateforme politique acceptée par tous. Sinon, c'est une fausse alliance et elle ne tient pas la route. Alors, le problème politique togolais est malheureusement l'histoire et son histoire. Et Adema et ses collaborateurs ont cultivé l'obscurantisme politique pendant des années pour asseoir et faire perdurer leur pouvoir. Et ils l'ont fait à un tel point que le niveau d'alphabétisme politique est élevé au sein d'une fraction importante de la population.
Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Alors, Emmanuel Bukovi, oui.
Voilà. Donc, sous cet angle, la question posée donc appelle une remarque importante. Un parti politique d'opposition à un régime d'oppression ne doit pas être une simple machine pour la conquête du pouvoir d'État. Il doit être en même temps un lieu d'information, un lieu de formation politique, de création et d'élévation d'une conscience politique. Car la tâche de transformation sociale et de reconstruction du pays sous ses angles après la chute du régime d'oppression requiert une participation active d'une fraction la plus large possible de la population à la vie politique sur la base d'une conscience politique la plus élevée possible. Et c'est maintenant, dans le feu de la lutte pour la fin de la dictature, qu'il faut commencer ce travail d'information. Formation politique, création d'élévation de la prise de conscience.
Merci pour les explications.
Le risque est grand, très grand, de ne jamais pouvoir le faire.
Merci pour les explications. Alors moi, je reviens encore une fois sur ma question présidente. Alors bien maintenant sous une autre forme. Et que proposez-vous maintenant concrètement dans la lutte pour l'alternance au Togo? Car dans vos réquisitoires, vous semblez dire que l'opposition prépare le lit au pouvoir. Et vous, quelle est votre approche de solution, Emmanuel Bukovi?
Vous avez raison. Et on nous a toujours posé cette question. Dès que vous faites la critique d'une position politique, d'une ligne politique, d'une pratique politique ou d'un parti politique, l'interrogation qui revient aussitôt, mais et vous, que proposez-vous? Je vais vous dire, Sylvain Amos, la critique a un rôle déterminant dans la lutte en cours pour la démocratie. Elle est claire. Elle permet de savoir où l'on va ou bien où l'on vous mène. On peut la faire sans avoir préalablement une proposition sous le bras. Et on doit la faire, quel que soit le parti qui est en face, ou la tête de l'homme qui est en face. Vous savez, ceci étant, la CDPADT a toujours pris le soin d'accompagner ses critiques La CDPA a commencé à proposer depuis 1992, je dis bien 1992, l'idée de la nécessité pour les partis d'opposition de se mettre ensemble pour travailler ensemble et faire émerger de la masse de la population une force alternative d'opposition. Elle a inlassablement continué d'affiner cette proposition tout au long du combat pour la démocratie pour arriver en 2004 à la nécessité d'un mouvement de la force alternative d'opposition à construire ensemble. Ce mouvement, c'est le MFAO, Mouvement de la Force Alternative d'Opposition. Elle a fondé sa proposition sur un document de base de plus de 100 pages que tous les partis et les organisations associatives et syndicales qui acceptent d'aller dans ce sens général peuvent transformer en une plateforme politique. Elle a étayé ces documents de base par un grand nombre d'articles, de déclarations, de communiqués pour expliquer et convaincre. Mais ne me demandez pas surtout de vous brandir ces documents. L'idée qu'ils contiennent sont trop graves pour le processus de la démocratisation pour qu'on se permette de les galvauder. Alors, voilà ce que je peux dire. Sur la solution d'approche, bien sûr.
Merci Emmanuel Bokovi. Restez encore des nôtres pour environ 10 minutes. Alors, code 1 et code 2, FRAC, ces coalitions n'ont pas réussi à faire fléchir ce régime vieux de 50 ans, hein, et face à de graves violations des droits de l'homme ces dernières années, sous Fonia Singbe, surtout dans le souci d'aider la population civile et qui croupisse dans la misère. Et le collectif Sauvons le Togo a vu le jour et le 4 avril dernier. À Lomé. Alors, ce collectif est un attelage parti politique et société civile. Allez-vous les soutenir, Emmanuel Bokovi? Et quel doit être le rôle de la diaspora dont vous faites partie également après la création de ce collectif?
D'accord. Mais vous avez raison, Sylvain Amos. Vous savez, les conditions et les collectifs n'ont rien changé. Pas pendant 50 ans tout de même, mais pendant 22 ans au moins. C'est pourquoi il faut arrêter la fuite en avant et réfléchir par deux fois pour ne pas continuer de les créer sur le même modèle et avec les mêmes objectifs et les mêmes pratiques, je dirais oyo-oyo, qui ont montré leur inefficacité depuis longtemps déjà. Donc, face à des graves erreurs, des graves violations de droits de l'homme, eh bien, ces droits de violation ont toujours existé. Depuis il y a des mains, et sous le règne du Fils, à qui assure la continuité. Cette violation participe de la nature même du régime qu'il a hérité de son père. C'est pourquoi l'opposition démocratique a le devoir de changer ce régime, pas de s'en accommoder, ou perdre le temps dans un inventaire inutile d'avancer. Alors, le collectif qui est né, c'est dans le souci d'aider la population civile, y compris dans la misère, dit-on. Mais c'est bien, mais d'abord, ce n'est pas seulement la population civile qui croupit dans la misère. C'est la grande masse de déshérités qui s'abîme chaque jour davantage dans la pauvreté et dans la misère. Alors, dans cette grande masse d'hommes et de femmes se trouvent aussi bien ceux qui sont ou sont mis sur la touche de la vie politique depuis 20 ans ou ceux qui s'impliquent dans la lutte politique, en tant que membre des partis politiques. Il ne s'agit donc pas d'aller aider ces masses d'hommes et de femmes qui est laissée sur la touche et qui regardent ou l'exhortent à venir aider. Il s'agit pour nous de l'organiser. Je dis de l'organiser par une politique d'opposition commune pour qu'il se dégage d'elle une force politique capable de faire des pressions en toute connaissance de cause. Dans le fond, que signifie aujourd'hui ce concept de population civile? La question mérite qu'on s'y penche. Car face à ce régime oppresseur qui écrase tout ce qui veut écraser, on ne peut pas se permettre de continuer de diviser ou d'opposer une population civile à une classe politique. Face à un rouleau compresseur, il n'y a qu'une population. celle de tous ces citoyens et de toutes ces citoyennes qui continuent de dire depuis 22 ans, ça suffit. Toutes ces composantes ont un point commun, leur aspiration commune au changement démocratique. Le grand tort commis par le courant dominant de l'opposition depuis février 1992 est d'avoir divisé cette population citoyenne en orientant la lutte pour la démocratie dans une voie électoraliste, où les partis d'opposition de ce courant se sont mis en compétition les uns contre les autres pour le pouvoir. Il ne faut plus continuer d'opposer une population civile et une classe politique.
Justement, et ça c'était ma question. Ma question était, est-ce que vous allez soutenir ce collectif Sauvons le Togo?
D'accord. Alors, dans tous les cas, votre première question, donc, c'est la question de savoir si nous devons soutenir le collectif que vous désignez d'ailleurs, si justement par un attelage de partis politiques et de sociétés civiles. La CDP-ABT est toujours mal à l'aise devant ou dans ce genre de regroupement. Elle a toujours dit que pour arriver à réaliser l'objectif du changement, il faut que les partis politiques d'opposition fassent une alliance solide et durable. Une alliance capable de drainer avec elle les organisations syndicales, les organisations associatives et tous ceux qui aspirent au changement pour constituer une force politique capable d'exercer sur le régime des pressions requises. Elle a toujours dit également qu'une alliance ne mérite ce nom que si elle repose sur une plateforme politique claire et sérieuse. Si nous n'avons pas adhéré au FRAC à la veille de la campagne présidentielle de 2010, c'est pour une raison bien simple. Ceux qui ont créé cet attelage, pour reprendre votre expression, n'ont jamais proposé une plateforme politique d'adhésion ou invité à en élaborer ensemble une qui soit de nature à lier les membres de l'organisation entre eux. On a vu ce que ça, l'attelage était devenu avant même les élections de 2010 et après aussi. Vous l'avez vu. D'ailleurs, un de vos invités est là. Vous pouvez lui poser la question, qu'est-ce que ça a donné? Il en est de même de la coalition des six. Et si en décembre 2002, la CDP-ABT était sortie de la coalition des forces démocratiques, c'est pour la même raison. Nous n'avons pas encore vu la plateforme politique du collectif Sauvons le Togo. Nous attendons de le dire et d'y réfléchir. Mais après, nous prenons la décision qu'il faut. Et en attendant, nous poursuivons le combat pour la démocratie sous l'éclairage et de la ligne politique de notre parti, telle qu'est définie dans le congrès constitué du parti à Kouridoua.
Bien sûr.
Alors, le rôle de la diaspora, me direz-vous. Par contre, la lutte en cours pour la démocratie, la diaspora togolaise n'est pas une entité à part au sein de la société togolaise. Elle fait partie intégrante de cette société. Que ses membres envoient de l'argent au Togo ou pour faire ceci ou cela ne lui donne aucun privilège particulier pour revendiquer une place particulière ou un rôle particulier au sein de la population togolaise. Car les Togolais de la diaspora sont des citoyens au même titre que les citoyens togolais de l'intérieur. Et ils ont donc droit, ils ont le droit de vote. Ils doivent avoir le droit de vote comme les Togolais de l'intérieur. Ceux qui aspirent au changement politique parmi eux doivent se battre pour le succès de la lutte politique en cours, comme le font les citoyens de l'intérieur, activement engagés dans le combat politique. Ils se doivent de le faire, pas individuellement, dirais-je, chacun de son côté, non, et chacun pour soi, non, mais dans le cadre des organisations dont la vocation historique est le changement social. Malheureusement, Sylvain Amos, la diaspora togolaise n'est pas organisée pour ce rôle. À l'image de la population togolaise, elle constitue un conglomérat de regroupements qui rivalisent entre eux, comme font les partis politiques, au point qu'elle est impuissante à contribuer efficacement à la lutte en cours pour la démocratie au Togo. C'est vraiment regrettable.
Oui, Oui, c'est vraiment regrettable. Est-ce que vous connaissez le CMDT, et Conseil mondial de la diaspora togolaise, qui veut et quand même actuellement regrouper les Togolais et de l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en France, un peu partout dans le monde entier?
Oui, je vous ai dit qu'il y a un conglomérat de regroupement en Europe, en France ou dans le monde entier. Hein, on peut les citer. Il y a le mouvement que vous venez de citer, il y a le CPR à Paris, il y a le collectif des Togolais du Rhône. Il y a plusieurs organisations, dans la diaspora.
Donc il manque tout simplement une organisation pour les réunir, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, c'est ça, c'est une base claire.
Merci Emmanuel Bekonvi et nous tirons vers l'affaire de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder dans cette rubrique Le Micro de Fenêtre sur l'Afrique. Une dernière question, les Togolais ont assisté il y a quelques semaines à la dissolution de l'ancien parti au pouvoir, le RPT, Rassemblement du Peuple Togolais, et ensuite à la création d'une nouvelle formation politique unie, Union pour la République, dont le président Fonia Singbe est le président. Alors, quelle est votre analyse de la situation? Et, car certains Togolais pensent que Faure a déshabillé Paul pour habiller Pierre.
Tout à fait. Les Togolais ont raison. Les Togolais ont raison. Parce que je ne vais pas faire l'histoire du parti de Faure. Nous avions déjà sorti une publication le 10 novembre, pour mettre en garde les Togolais de ce qui allait se passer. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais vous savez, les grandes manœuvres ont commencé depuis un certain temps, où les émissaires du régime avaient sillonné tout le pays dans la plus grande discrétion pour porter la nouvelle aux chefs des villages qu'ils ont essayé de corrompre par de l'argent, en les invitant de créer de ce qu'ils ont appelé des comités de développement dans les villages. C'était la première étape. La seconde étape était en octobre, quand on a commencé à réunir à Lomé deux associations, l'une qui s'appelle Nouvelle Génération pour le soutien de Faure Gnassingbé et l'autre un mouvement de la majorité silencieuse pour le soutien de Faure. Ces deux associations dont la création paraît susciter dans ce but, il y a donc, on connaît déjà l'idée de ce qui allait se passer. Et les méthodes sont toujours les mêmes. Ce sont les méthodes, les anciennes pratiques de du RPT. Vous avez vu comment le RPT a été créé. Eh bien, ces mêmes pratiques conduisent à la création de l'UNI aujourd'hui. Mais, pour vous dire franchement, la création du nouveau parti de Faure participe à une stratégie de conservation du pouvoir. La création de ce nouveau parti est évidente. Et la stratégie consiste donc, de cette partie, consiste donc à pérenniser le régime en place. Elle a tellement opéré insidieusement dans ce climat politique confus, où les chefs de parti au devant de la scène ne pensaient plus qu'à collaborer avec le régime sur le thème du partage du pouvoir ou celui de la réconciliation ou celui de l'apaisement. Alors, pour ne pas procéder aux réformes exigées par la création des conditions requises pour l'instauration de la démocratie dans le pays, pour ne pas procéder aux réformes prescrites dans l'APG en 2006, le régime donc a opéré ainsi pour, en fait, ne pas essayer de faire des réformes telles que on le souhaite, des réformes institutionnelles pour permettre des élections libres, transparentes et démocratiques. Alors, vous vous souvenez du coup du père, hein, le père, par le coup d'État du 13 janvier, était arrivé avec ses co-démobilisés de l'armée coloniale, se sont constitués une base financière inespérée, puis se sont emparés pour de bon de l'appareil d'État en créant en 69, le RPT. Vous vous en souvenez, 2 ans plus tard, l'armée pour créer le RPP. Alors, pendant ce temps, une minorité s'est enrichie de façon scandaleuse, tandis que la majorité de la population est entretenue dans la misère. Aujourd'hui, la création de l'UNIR, du parti du RPP, est une réelle menace. Une menace pour la démocratie. C'est pourquoi la CDPADT attire l'attention sur ce parti de fort et son entourage et ce que son entourage veut donner. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que le régime se pérennise. C'est une réelle menace pour l'avenir démocratique du Togo.
Merci.
Une menace qui doit retenir l'attention. Bien plus que le temps perdu dans les CPDC rénovés ou CPDC.
Merci.
Ou autre.
Merci.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, AfriqueInternews.com sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Notre deuxième invité est également en ligne, en direct depuis la France. Cette fois-ci, nous allons accueillir Agbiome Kodjo, président de OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo prospère. Mais bien avant cela, nous marquons également une pause.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Agbiome Kodjo, bonsoir.
Oui, bonsoir Amos.
Merci d'être l'invité de cette rubrique Le micro de Fenêtre sur l'Afrique. Vous avez encore rencontré la diaspora togolaise en France, et plus précisément celle de Lyon samedi dernier, dans le cadre de la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance du Togo. Alors, Agbiome Kodjo, comment avez-vous trouvé cette rencontre et quel message concret avait sanctionné cette journée de célébration de l'indépendance du Togo?
Oui, il est de tradition que chaque année, le comité des Togolais de Rona invite une personnalité de la classe politique togolaise. Cette année, l'honneur nous a été fait d'être conviés à cette rencontre avec nos compatriotes. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que le bureau politique m'a autorisé à prendre part à cette rencontre qui s'est très bien passée. Quel message ? Les Togolais sont inquiets aujourd'hui. Autant ceux qui sont au Togo comme la diaspora qui aujourd'hui constitue, si vous voulez, le bailleur de fonds le plus important, du moins pour notre pays, puisque du moins c'est la contribution annuelle que les Togolais de la diaspora apportent donc pour l'économie, pour soulager la souffrance de leurs parents là-bas, dépasse largement donc l'aide publique au développement. Donc ils sont inquiets et s'intéressent sur l'avenir de leur pays. Ils m'ont donc convié pour leur faire un état des lieux. Je leur ai fait passer donc le message que j'ai adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la 52e anniversaire de notre pays. Et puis, bon, la problématique qu'ils ont posée est de savoir s'il faut pour sortir donc de cette dictature, je dirais, familiale, clanique, donc sur le Togo, s'il fallait emprunter le chemin donc des printemps arabes, ou s'il y a encore espoir aujourd'hui de compter que des élections pourront être considérées comme la clé qui pourrait ouvrir pour le Togo le chemin de la démocratie, de l'état de droit et de la prospérité partagée. Donc, c'est cette problématique-là que nous avons annoncée en prenant donc les deux alternatives, printemps arabe. Oui, quels sont donc les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce que nous aurons le soutien de la communauté internationale? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les pays qui ont eu à connaître le printemps arabe Bon, ces pays sont des pays qui ont des relations beaucoup poussées, du moins avec l'Europe. Donc, je prends par exemple le cas de la Tunisie. Si ça ne marche pas en Tunisie, retrouver l'autre rive de la Méditerranée, c'est plus facile. Or, vous savez aujourd'hui que l'enjeu majeur de la campagne présidentielle en France, c'est du moins le flux donc des immigrés. Donc, il fallait limiter cela. Donc, trouver une solution politique donc en Tunisie qui permette donc que les jeunes Tunisiens restent chez eux et ne prennent pas le risque de traverser la Méditerranée pour retrouver la France, et aussi est un enjeu majeur pour les Français. Et je dirais donc pour l'Europe tout entière. Donc, enfin, il y a eu, une attention soutenue par rapport à ça. Est-ce que si nous nous engageons dans cette voie, nous aurons en tout cas le soutien et l'écho médiatique nécessaire? Donc au niveau donc de l'Occident, bon, nous avons attiré leur attention également sur cet écueil. Mais maintenant, est-ce que la voie électorale donc pourrait résoudre le problème togolais, quand on sait que de manière récurrente, les résultats des élections sont pervertis et que les suffrages des populations ne sont pas respectés? Voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle donc nous nous sommes retrouvés. Mais dans tous les cas, ce que je peux retenir de cette rencontre, c'est la détermination des Togolais de la diaspora,
oui,
à apporter un soutien massif
au
collectif Sauvons le Togo, qui constitue aujourd'hui la première force politique au Togo.
Oui, Agbéomé Kodjo, et pendant que vous vous êtes en France, et le rassemblement du collectif Sauvons le Togo, dont votre parti est membre, a été réprimé par la police, faisant plusieurs blessés. Alors, quelle est votre analyse sur la situation et quelles mesures allez-vous prendre maintenant devant cet acte, Agbéomé Kodjo?
Non, je pense que c'était une grave méprise, donc au niveau donc du pouvoir de Fonia Singé, de réprimer des manifestants, hein, des Togolais, qui ont voulu, le jour de l'indépendance, aller du moins sur cette place symbolique pour réaffirmer donc leur engagement donc à la suite de ceux qui ont souffert, ceux qui ont donné leur vie, leur sang, leur sueur pour libérer le Togo, que, en tout cas, la jeunesse togolaise, les forces démocratiques et les forces de l'alternance, en tout cas, se mobilise pour que plus jamais, donc sur la terre de nos aïeux, ne triomphe la violence, la violation des droits de l'homme et la contre-vérité des jeunes. Et il ne faut pas oublier que cette année, constitutionnellement, nous devons aller aux élections législatives. Et pour aller aux élections législatives, il faudrait donc faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui ont été actées depuis 2006 dans l'APG, et que Dumont-Fort et ses amis Richin a traduit dans les faits pour assurer la traçabilité des résultats, la transparence des élections qui arrivent, parce que il ne faut pas oublier que le 15 septembre 2012, non, le 15 septembre 2011, Fort a créé Dumont-Fort un CPDC rénové pour dire que il veut dialoguer avec l'opposition pour les réformes nécessaires avant d'aller aux élections et prendre en compte aussi les recommandations des deux missions d'observation de l'Union européenne, notamment celles de 2007 et de 2010, qui ont formulé des recommandations pertinentes pour assurer des élections transparentes au Togo afin d'éviter ou dénucléer les crises post-électorales qui ont toujours été, si vous voulez, en tout cas le lot commun que les Togolais du monde ont souvent partagé avec ce régime. Et donc, mais le CPDC rénové n'a pas été capable donc de faire les réformes. En temps, on a créé un autre cas de dialogue avec les partis parlementaires, ça a aussi échoué. Et on a appris, lors d'un conseil des ministres, que Fonia Singé a adopté unilatéralement un code électoral, en tout cas, qui... je dirais qui lui est favorable pour du moins aller aux prochaines élections. Alors, qu'est-ce que nous, nous avons fait par rapport donc, à cela, par rapport aux violences d'abord? Nous avons saisi toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons écrit, je parle du collectif, nous sauvons le Togo, nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République pour attirer donc, son attention sur donc, cette violation massive des droits de l'homme, qui est contraire, qui est une insulte pour ceux qui ont obtenu l'indépendance pour le pays. Nous avons également attiré son attention que les falsificateurs donc, du rapport de la CNDH courent toujours, les tortionnaires sont en liberté, Patania Singbe et autres qui sont emprisonnés et sur la base des aveux obtenus, donc sous le coup de la torture, alors que toutes les dispositions juridiques internationales recommandent que lorsque quelqu'un était condamné sur la base des informations obtenues sous le coup de la torture, la procédure doit être annulée. On a attiré son attention sur tout cela, sans oublier de lui dire que selon les dispositions communautaires de la CEDEAO, à 6 mois des élections, aucun pouvoir ne peut du moins engager de manière unilatérale des réformes pour aller aux élections. Il faudrait donc que cela soit l'objet de consensus avec l'opposition. Or, cette disposition, on ne l'a pas respectée. Alors, la question que nous nous posons est de savoir, après les 38 ans de règne de Gnassingbé et Adema, beaucoup de Togolais espéraient que Faure, avec sa présomption du moins d'être un universitaire, qu'il aurait pu, en tout cas, corriger les travers du régime de son père et, en tout cas, construire une démocratie apaisée et offrir du monde des chemins de la prospérité partagée pour le peuple togolais. Mais en fait, c'est une grande déception. Nous attendons les résultats des élections du monde en France pour essayer donc d'aller vers du monde, les premières autorités et leur dire, en tout cas, et la désespérance dans laquelle donc les Togolais vivent et que de toute façon, telle que la situation se présente aujourd'hui, tout peut arriver du monde, à tout moment. On ne comprend pas pourquoi va et tout le temps chercher à diviser donc les Togolais. Il y a une minorité qui est autour de lui qui pille le pays, parce que c'est quand même assez grave que dans un pays comme le nôtre au 21e siècle qu'on vende du diamant et que du moins les Togolais ne le savent pas et qu'il n'y ait pas de trace donc au niveau du budget général, qu'on vende de l'or et que ce soit dans une affaire personnelle que font lui-même et ses amis conduisent, tout cela de toute façon nous pose un problème quand on sait que 70 à 80% des Togolais ne trouvent pas, du moins c'est l'équivalent de dollars par jour, pour assouvir donc les besoins les plus élémentaires. Je crois quand même que le patrimoine qu'il y a demain à laisser est assez important pour que du moins l'œuvre de flotation engagée par Faure et ses amis-là puisse de toute façon, à mon avis, prendre fin.
Monsieur Agbemi Kodjo, merci d'être toujours avec nous dans cette rubrique Le Micro de Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes panafricaniste également. Et alors, dans les années 60, plusieurs pays africains accédaient à leur indépendance, tout comme le Togo. Alors, dans notre débat de samedi dernier, les Togolais résidents en Suisse qui sont venus assister à ce débat, à cette table ronde dans le studio de Canal K, et se sont dit inquiets de la situation politique du Togo après 52 ans d'indépendance. Alors, quelqu'un est même allé loin en évoquant le problème de l'indépendance monétaire dont le Togo et la plupart des pays africains ne jouissent également pas. Alors, que doit faire l'Afrique, selon vous, pour sa vraie indépendance, y compris le Togo, à Agbemi Kodjo?
Non, c'est-à-dire que si nous voulons que le continent se développe, à mon avis, il y a deux préalables importants que nous devons régler. D'abord, il faut construire un système politique qui respecte les droits fondamentaux de l'homme. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la liberté d'expression. Je crois que si ces fondamentaux sont d'abord réglés, nous pourrions de toute façon aller du moins à un deuxième niveau qui est donc la vérité des urnes. Lorsque nos chefs d'État ne sont pas régulièrement donc élus, il faut chercher des soutiens extérieurs pour pouvoir se maintenir contre la volonté du peuple. À partir de ce moment, tout ce qui peut aller dans l'intérêt du peuple, ils n'en sont plus maîtres. Ils reçoivent des dictées du monde à l'extérieur. Et en fait, les préoccupations de développement, de prospérité partagée, de grandes visions donc pour nos pays, passent à la trappe donc du, comment je dirais, du déficit démocratique et du déficit de légitimité qu'incarnent donc nos dirigeants. Je dis, en fait, la monnaie, est, je dirais, fait partie de ce que je peux appeler donc les éléments de souveraineté d'un pays. Bon, pour l'heure, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons une monnaie commune contrôlée donc par la France. Mais je pense que au niveau des organisations communautaires au niveau du continent, les gens ont pris conscience de ça, que la maîtrise donc de la monnaie est un élément essentiel. C'est pour cela qu'au niveau de la CEDEAO, je crois que du moins des démarches sont en cours pour envisager à l'horizon de 2020 la création d'une monnaie commune au niveau donc des pays de la CEDEAO. Au niveau des regroupements également, d'autres regroupements économiques sur le continent, les mêmes démarches se font pour envisager plus tard qu'au niveau du continent, nous puissions avoir une monnaie commune. Donc, le souhait exprimé par la diaspora togolaise en Suisse est pertinent, mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui d'avoir du moins la maîtrise de sa monnaie, d'avoir notre propre monnaie, quand du moins les droits de l'homme sont violés, quand la vérité des unes n'est pas respectée? Je ne suis pas sûr que cette seule condition permettra aux Togolais de retrouver, en tout cas, toutes les conditions de leur propre épanouissement et également du développement du pays. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui compte donc au niveau du continent, c'est que nous puissions aller aussi, comme d'autres pays l'ont réussi, vers donc la vérité des jeunes, la construction d'un état de droit, le respect des droits de l'homme et également sacraliser la vie humaine et le déni public. Voilà donc ce que je peux dire, construire des mécanismes tels que ceux qui pillent nos pays ne puissent pas de toute façon à la fin de leur mandat jouir de toute façon de leur œuvre de prédation. S'ils savent que s'ils prennent les milliards du pays et qu'ils mettent dans un pays étranger, on va demander comment je vais dénoncer et retourner le produit de leur détournement du monde, mais au peuple souverain, je crois que ça allait décourager les gens. Donc, il nous faut également à ce niveau-là une collaboration internationale pour que du moins les pays qui reçoivent donc les biens mal acquis puissent qu'il y a quelques manifestations, on a vu ce qui s'est passé en France avec quelques chefs d'État, mais ce n'est pas suffisant. Voilà.
Merci.
Dès lors que les structures qui accueillent donc ces détournements-là, si on les décourage, je pense que nous pourrions demain espérer que nos enfants verront du moins une Afrique où les règles de démocratie, les règles donc de bonne gouvernance, la défense et la protection donc des droits de l'homme seront respectées. Voilà, moi, mes convictions.
Merci.
En tout cas, sur...
Merci, M. Agbemi Kodjo. Alors, une avant-dernière question, et sans langue de bois, M. Agbemi Kodjo. Et beaucoup de Togolais, même de la diaspora, se disent fatigués de la lutte vers un état de droit au Togo. Et 2 ans, et que le FRAC, le Front Républicain pour la Tenance sur le Changement, et dont vous-même vous étiez allié, et ce front marche, et le pouvoir est toujours dans sa logique de garder le pouvoir. Et un nouveau parti vient de voir également le jour, Union pour le Rassemblement de Faure Gnassingbé. Alors, à Agbemi Kodjo, et vous étiez dans les arènes de la politique togolaise, et vous connaissez bien ce pays, de la politique de ce pays. Vous avez été ancien et premier ministre au Togo, ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, quelles conséquences cela pourrait être et cela pourrait avoir et sur la politique du Togo, et vu que les députés de l'ancien parti RPT, Parti du Pouvoir, se sont constitués et actuellement en groupe majoritaire parlementaire.
Vous savez, le 27 juin prochain, ça fera 10 ans que nous avons sonné le tocsin pour que des réformes politiques majeures puissent avoir lieu au rassemblement du peuple togolais. Nous n'avions pas été compris. Cela m'a valu des persécutions, J'ai été obligé de partir en exil. Mais aujourd'hui, 10 ans après, nous constatons que ce que nous disions est vrai et justifié, et que Faure et ses amis donc étaient obligés donc de dissoudre le EPT. Alors qu'il y a une dizaine d'années, nous aurons pu du moins faire des réformes donc au niveau du EPT, faire entrer du moins le EPT dans le jeu démocratique, parce qu'il était observé et reconnu par tout le monde que le blocage démocratique du Moussou Togo, c'était le RPT qui, en tout cas, bloquait toutes les avancées démocratiques qui pourraient du moins aider le pays à avancer. Et d'ailleurs, même cette posture-là est à l'origine du retard important que nous avons accusé sur les pays voisins qui ont moins de ressources du moins que nous. Donc, que Faure lui-même se décide maintenant à le faire, c'est d'abord une bonne chose. Mais le faire de manière, sournoise, au mépris de ceux qui ont donné leur sang, leur sueur, leur argent pour construire dans ce parti, je crois quand même que c'est ça que les barons, les dignitaires du parti lui reprochent aujourd'hui. Il veut créer UNI. Et il a rassemblé de nouvelles figures. C'est son droit. Mais cette histoire donc, me rappelle l'histoire donc du boucher et puis, en tout cas, les animaux. Un beau jour, on dit que le boucher est mort. On dit, ah, le boucher est mort. On dit, ah, c'est bien. OK. Mais est-ce que le boucher a des enfants? On dit oui. Mais les couteaux, du moins, ce que le boucher utilisait donc, pour nous tuer, est-ce que les couteaux sont là? On dit oui. Eh bien oui, bon, donc le EPT est mort, mais le boucher est là, les couteaux aussi sont là. Donc, UNI ne peut pas de toute façon réaliser donc l'idéal donc qui prône, puisque le même esprit qui est mauvais, donc qui faisait montrer que le EPT était un obstacle donc pour la prospérité et le développement et la démocratie du pays, le même esprit donc, se retrouve là-bas. Donc il n'y a aucune, en tout cas, espérance à avoir que UNI va donc révolutionner le pays, rassembler le pays, comme du moins il prétend donc du moins le faire. UNI, je crois que ça doit commencer par la libération de Kwacha, parce que du moins s'il faut unir les Togolais, il faut qu'il arrive à unir sa propre famille. Il sait que son frère est illégalement et illégitimement en prison, il faut qu'il le libère. UNI, ben, il a licencié un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée togolaise. Oui, des soldats de rang. Il faut qu'il les réhabilite. Puisque je dis illégalement et illégitimement, bon, ils ont perdu leur boulot, ils ont des familles. Bon, UNI, bon, il faut que Faure lui-même, par son comportement, ne divise pas les familles togolaises. Il y a beaucoup de familles togolaises qui sont divisées aujourd'hui avec, la politique qui conduit. Oui, que ce soit de la politique conduite ou que ce soit même au niveau de sa propre vie, il a sa propre vie privée, il a divisé plusieurs familles aujourd'hui. Donc je ne vois pas où va UNI. Et puis en fait, moi, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, la posture que Bojona observe dans la création de cette formation politique me gêne. Parce que on ne peut pas, aucune formation politique ne peut démarrer ses activités si elle n'a pas au préalable organisé une assemblée générale et montré une assemblée générale avec un bureau et également avec ses statuts. Or, on ne connaît pas le statut de UNI, on ne connaît pas les régions de UNI et on voit de même fleurir à tous les points de rue sur l'ensemble du territoire national des posters géants portant du moins la photo de Faure et la publicité, donc, pour une formation politique qui n'a pas encore une base légale. Vous savez, nous avons, après les élections présidentielles, refusé de rentrer au gouvernement. On a donné de l'argent au Vidada, paix à son âme, pour donc engager une action de déstabilisation du parti au motif qu'il y a des fondateurs qui ont démissionné. On court à rêver. Et on a prononcé la dissolution du parti. Vous savez, la question que vous posez est une question pertinente. UNI n'a, à mon avis aujourd'hui, aucune chance de rassembler le pays.
C'est un instrument de verrouillage de l'espace politique que font tant de faire. Si les démocrates, les humanistes, les défenseurs des droits de l'homme laissent fort poursuivre son chemin, je crois quand même que de toute façon, ça va poser énormément de problèmes dans tout ce pays. N'oubliez pas que le RPT a fait 43 ans et que du moins la même démarche que son père a observée, c'est exactement du moins la même démarche qu'il tente d'observer. Mais la seule différence, c'est que force se trompe d'époque. Oui, 69 là, ce n'est pas 2012. Mm-hmm. Les conditions qui prévalaient en 69 mm-hmm. ne sont pas celles qui prévalent aujourd'hui en 2012.
Merci.
Quant aux députés du RPT qui se sont constitués en groupe majorité présidentielle, je considère que cela relève d'une véritable escroquerie politique. Écoutez-moi bien. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, c'est résulte de l'attelage d'un accord politique entre le RPT et l'UFC. Le RPT n'existe plus aujourd'hui. La conséquence logique, politique, qu'on devait tirer de cela, c'est que le gouvernement doit être dissous. Puisque les deux formations politiques donc, qui soutenaient donc ce gouvernement, il y a un qui est dissous. Oui, c'est le principal moteur est dissous. Donc ce truc ne veut pas exister. Deuxième chose, c'est que Fonia Singbe a été élu sur la base d'un programme politique présenté par le Rassemblement du peuple togolais. La même réalité vaut pour les députés qui RPT qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Ils ont obtenu ils prétendent avoir obtenu leur suffrage sur la base des programmes qu'ils ont présentés aux populations. Dès lors que le parti disparaît, le programme aussi disparaît. Nous serions dans un pays, du moins, qui se respecte, nous commencerions du moins par des élections législatives anticipées. Parce que dans aucun pays au monde, on n'a jamais observé que les trois quarts de l'Assemblée sont remplis par des députés non inscrits. C'est-à-dire que il n'y a aucune formation politique majeure aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Le RPT, du moins qui a 50 députés, n'existe plus. Les 50 députés là sont des députés non inscrits. Ça veut dire que ce qu'on appelle députés non inscrits, c'est des députés qui sont venus individuellement en détail et qui se mettent en groupe pour parler comme les Ivoiriens, pour former un groupe parlementaire. Donc, les députés non inscrits n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de programme commun. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, leur seul programme commun, celui du RPT, n'existe plus. Donc, ils n'ont plus de place à l'Assemblée nationale en principe. Et qu'en principe, nous devons pousser l'analyse à un niveau plus élevé, Ford devrait lui-même également donner sa démission. Voilà la confusion politique dans laquelle Ford met le pays aujourd'hui. Mmh. Et c'est un de vos collègues qui vous rappelait opportunement la dernière fois lors d'une conférence de presse que la Banque mondiale a fait donc des études et découvre qu'il y a une société minière qui a payé 1 milliard 700 millions de francs. Donc comme taxe, on lui a donné donc son reçu. Mais quand on a voulu faire les recoupements au niveau du trésor, on a trouvé qu'on a versé seulement 11 millions. Mais comment vous pouvez accepter ça? Et quand j'entends le 27 avril, le message de Ford dressé à la nation qui dit que si on laisse une minorité de la population donc s'accaparer des biens de la nation, que la démocratie sera menacée, la cohésion nationale, il fait quoi là? C'est pas lui le magistrat? C'est pas lui qui est à la tête de la petite minorité qui pille le pays? Demandez à Ford combien de palais il a construit depuis qu'il est arrivé, plus d'une dizaine de palais. Demandez-lui combien de villas il a construit à l'intérieur de l'OME 2. Tout cela m'amène à dire que la communauté internationale, à commencer par l'Union européenne, qui fait de belles recommandations, il faut que l'Union européenne aille au bout.
Ademe Kodjo, justement, parlant de la communauté internationale, nous allons nous intéresser un petit peu à l'élection présidentielle, au deuxième tour de l'élection présidentielle en France, puisque vous l'avez évoqué en début de cet entretien. Vous êtes également actuellement en France. Alors, Nicolas Sarkozy a toujours maintenu le système France-Afrique. C'est ce que disent beaucoup d'Africains. Alors, pour vous, est-ce que si François Hollande, le socialiste, est élu président des Français, est-ce que cela pourrait changer la donne politique en Afrique et notamment au Togo? Et Kofi Yamnian, que vous connaissez très bien, dans une interview qu'il nous a accordée ici même à Radio Kanaka, se dit quand même optimiste, M. Agbemi Kodjo.
Vous savez, il faut rendre à chacun, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et que fort, après avoir traversé une marée humaine, après avoir traversé un torrent de sang, c'est de moins mais juché au sommet de l'État, et Sarkozy, il n'était à ce moment-là que ministre de l'Intérieur, avait dit que lui ne reconnaissait pas de moins mais cette élection parce que cela relevait d'une mascarade électorale. Et quand Faure est venu passer 72 heures ici, dans ce pays, pour être adoubé donc par l'Élysée, il a voulu prolonger son séjour, mais Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre d'État, avait dit que non, il ne pouvait pas de toute façon, en tout cas, le protéger davantage. Et il a quitté précipitamment la France pour aller se réfugier en Italie pour quelques jours. Pour revenir, je tiens, il faut rendre justice. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Bon, pour dire que nous aurions aimé obtenir davantage plus de résultats dans cette politique de rupture avec la France-Afrique, dans cette politique d'ouverture qui permet donc à notre pays d'être émancipé sur le plan démocratique et économique, nous aurons pu espérer obtenir plus de résultats avec la gouvernance donc que Sarkozy donc a incarné. Mais je puis vous assurer que ce qui se passe ici, n'étant pas français et acteur, donc ici, nous observons cela avec beaucoup d'attention. Et quel que soit le vainqueur, nous nous préparons, là en ce moment au niveau du collectif Sauvons, donc le Togo, de faire les démarches nécessaires auprès du nouveau président de la République française pour donc formuler de manière claire et précise les grandes exigences du peuple togolais, notamment de toute façon l'ouverture du monde à des élections libres et transparentes qui du moins désigne le vrai vainqueur et également du moins mais en tout cas des modifications énormes au niveau donc de la gouvernance donc au Togo. Voilà donc ce que je peux vous dire, tout en souhaitant aux deux candidats en lice, en tout cas, toutes les chances nécessaires pour que donc le peuple français puisse en tout cas trouver les leviers nécessaires pour résoudre la crise multiforme donc qui traverse.
Agbemi Kodjo, merci, merci infiniment d'avoir été l'invité de cette rubrique de Fenêtre sur l'Afrique, le micro de Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices, dans cette rubrique, le micro de Fenêtre sur l'Afrique, que vous êtes le président de OBU, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Agbemi Kodjo, merci et bon séjour en France.
Oui, merci beaucoup à moi. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'excellent travail de communication, d'information et de sensibilisation que vous faites. Mais dans tous les cas, je crois que c'est l'histoire lui-même, elle-même, qui portera témoignage pour votre engagement pour la démocratie et le respect des droits de l'homme.
Merci.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission dans la rubrique Le micro de Fenêtre sur l'Afrique. Toute l'équipe se tient à moi et nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous samedi prochain.
Ne nous imposez plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Cessez de nous imposer nos dirigeants, car nous sommes des États souverains. Cessez de nous imposer nos présidents, car ils deviennent après des dictateurs. Au pouvoir,
pays et affamant leur peuple. Et quand leur peuple se révolte, c'est les chars qui répliquent. Laissez-nous enfin choisir nos propres dirigeants. Après 50 ans d'indépendance, ça suffit trop, c'est trop. Nul ne peut cacher la lumière du soleil, si ce n'est l'Éternel lui-même.
Et pourtant leur peuple souffre, alors que eux ils s'en foutent.